Bonjour à toutes et tous, et oui, je suis vraiment désolé, donc best of cette semaine, puisque par rapport à un contre-temps, je n'ai vraiment pas pu réaliser l'émission pour cette semaine, donc je m'excuse vraiment auprès de vous toutes et vous tous, auprès des tipeurs qui ont suivi, vous savez, comme chaque semaine, au jour le jour, l'évolution du sommaire sur le Tipeee et sur le Patreon, donc je me ferai pardonner, c'est promis, mais là c'était vraiment impossible, et voilà, c'était tout simplement infaisable, là. Ce week-end. Je m'excuse encore, je vous ai préparé donc un beau petit programme avec une sorte de petit best-of de ce premier trimestre de la revue de presse JV. Vous le verrez, des sujets qui me paraissent très importants, que j'ai compilés pour cette émission qui, je pense, fera autour de la demi-heure. Peut-être que c'est l'occasion pour certaines et certains d'entre vous de rattraper certains sujets qui vous auraient échappé. Donc, sans plus tarder, on est parti pour ce best-of et je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Cette fois-ci, c'est promis. Très bonne émission et donc à très très vite. Le jeu vidéo, nouvelle spécialité polonaise. C'est un papier qui nous vient de Courrier International, vraiment un très bon papier que Courrier International tient de Politica. Alors Politica, c'est un hebdomadaire polonais, tiré, nous dit-on, à 230 000 exemplaires. La politique, en français, donc un hebdo qui appartient aujourd'hui, nous dit-on, à ses journalistes et qui est devenu le plus grand hebdo sociopolitique de Pologne. Alors si vous êtes gamer, et je suppose que vous l'êtes, vu que vous écoutez la revue de presse JV, ou tout du moins si vous êtes même joueur occasionnel, vous avez tous entendu parler de The Witcher 3, le succès international, nul besoin de le rappeler, et l'on trouve derrière ce jeu CD Projekt, donc studio polonais. Et donc l'article de Politica nous dit que les investisseurs attendaient vraiment impatiemment le nouveau projet de CD Projekt. Vous le savez, nous le savons depuis fort fort longtemps. Ce nouveau projet, c'est bien sûr Cyberpunk 2077 que le monde entier attend. Et nous dit Politica, de l'accueil qui sera réservé à Cyberpunk 2077 dépendra l'avenir de CD Projekt. C'est pourquoi le jeu se donne tous les moyens, il s'annonce extrêmement ambitieux, il y a aussi la présence de la star Keanu Reeves, etc. Politica nous rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, les actions CD Projekt valaient moins de 1€. Donc les créateurs de The Witcher étaient même proches de la faillite. Alors que les banques, nous dit-on, leur refusaient des financements, un homme d'affaires a pris le risque d'investir. Lorsque le cours a rebondi à 1,60€, il a revendu ses parts en faisant une excellente affaire. Il a reconnu plus tard qu'il s'agissait quand même d'un geste stupide, car s'il avait attendu, il se serait fait comme beaucoup plus de brousouf. Bref, à présent, Politica nous dit que les investisseurs attendent volontiers et traite les jeux vidéo non plus comme des jouets ou comme un simple loisir, mais comme un secteur à part entière de l'industrie du divertissement. Il était temps, les gars. Un investissement donc qui s'avère plus sûr que les centrales énergétiques et les mines. Le parcours des trois fondateurs de CD Projekt, entrés au classement des plus grandes fortunes polonaises, sont de vraies sources d'inspiration pour des milliers de jeunes passionnés qui veulent suivre leur exemple. Et donc on comprend à travers ce papier que derrière le grand succès de CD Projekt, il y a beaucoup de passionnés de jeux vidéo. Alors je ne parle pas forcément des investisseurs qui n'y voient là qu'un intérêt financier, mais en parlant vraiment de passionnés de jeux vidéo, beaucoup rêvent en Pologne d'un succès comme The Witcher. Donc on a divers témoignages dans ce papier, notamment celui de Piotr, un étudiant et un joueur passionné qui veut devenir développeur, qui veut devenir créateur de jeux. Il nous dit « Au départ, il n'est pas indispensable d'avoir un super ordinateur ou des logiciels professionnels qui coûtent un bras. On peut créer un jeu vraiment pas mal avec des outils disponibles sur internet et qui sont parfois gratuits, comme le moteur Unity par exemple. C'est l'élément le plus important du programme grâce auquel le jeu pourra fonctionner. Si on a besoin, il est toujours possible de poser sa question sur le web, car Unity est utilisé dans le monde entier. » Alors on nous dit que ce jeune Piotr a une idée de jeu, et qu'il est justement en train de former une équipe. Bien sûr, nous dit Politica, il connaît ses limites, ce ne sera donc pas un projet gigantesque, mais plutôt un jeu récréatif et destiné à des joueurs occasionnels. Sur ce marché, il y a toujours de la demande. Le fameux casual gaming. Toutefois, nous dit l'article, si ce premier produit marche et que l'équipe se révèle capable de fournir de bonnes idées, peut-être qu'elle ira plus loin et fondera son propre studio, et alors, qui sait ? Un peu plus loin, nous avons le témoignage de Christophe Kostowski, fondateur, président et actionnaire principal de Playway, une structure qui produit et qui édite des jeux cotés en bourse. Il nous dit, selon mes calculs, un jeu sur 7 marche et rapporte de l'argent. C'est pourquoi il faut en produire beaucoup et les mettre rapidement en vente, car un jeu réussi peut couvrir les coûts de plusieurs échecs. Alors sa stratégie à ce monsieur, nous dit-on, consiste à identifier des jeunes créateurs, à leur apporter un soutien financier et technique, puis à éditer et promouvoir le produit fini. Monsieur Kostowski nous dit également, je cite, « Nous avons 50 filiales qui créent des jeux pour nous ». Alors le dossier nous dit que lui-même n'est pas joueur, mais par conséquent donc il se fie non pas à ses propres goûts, mais plutôt au potentiel que les jeux peuvent avoir sur le marché. Par exemple, les jeux de simulation. Quand il a eu l'idée, ce monsieur Kostowski, de Car Mechanic Simulator, une simulation de garage automobile, personne n'y croyait. Qui allait se prendre pour un mécano dans un garage virtuel, nous dit-on, même reproduit de façon assez réaliste, quand on peut dans d'autres jeux trouver des épées magiques et faire la peau à des hordes de zombies. Bon là c'est un petit peu caricatural, mais bon, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Malgré tout, nous dit Politica, le produit s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde et a généré des millions de bénéfices. Alors je ne connaissais pas Car Mechanic Simulator. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà joué, mais je l'ai découvert avec ce papier. Playway mise donc, nous expliquons, sur des jeux de simulation et il en propose beaucoup, beaucoup, dont certains sont assez particuliers. Les joueurs peuvent ainsi entrer dans la peau d'un sans-abri, d'un huissier, d'un voleur, voire d'un prêtre. Ce sera intéressant d'aller jeter un œil à ces jeux-là. Bref, déjà en ligne sur Steam, poursuit l'article, la courte bande-annonce de Priest Simulator, donc simulateur de prêtre, nous fait dire que ce ne sera pas un jeu éducatif pour des candidats au séminaire, mais plutôt un jeu d'aventure assez controversé avec des éléments d'horreur et d'humour. Monsieur Kostowski, toujours lui, ne peut pas discuter de ce projet réalisé par Ultimate Games, un des studios appartenant à l'écurie Playway. Le marché montrera si le concept du jeu, comparé dans les médias polonais au film Claire, Clergé en français, un film qui avait été très critique à l'égard de l'église catholique, donc on va voir si ce jeu se vend. Les Polonais ne représentent pas une part importante de nos ventes. La plupart des téléchargements sont originaires des États-Unis, de Chine et d'Europe occidentale, donc nous précise le patron de Playway. En Pologne, donc, il existe déjà plus de 200 studios de création de jeux vidéo dans tous les genres et sur tous les supports possibles, PC, console, mobile. Certains observateurs en dénombrent même 500 en y incluant des groupes informels de jeunes qui déclarent vouloir créer des jeux sans encore avoir fondé leur entreprise. Monsieur Kopodzek, un président d'une agence publique de soutien aux jeunes créateurs, nous dit, je le cite, « Dans certains cas, cela s'arrête au stade des projets et des idées générales. Les obstacles à la réalisation sont divers, mauvaises idées, dissolution de l'équipe, etc. Cela touche surtout les étudiants qui, en règle générale, créent des jeux sur leur temps libre avec des effectifs très limités. Ce type de modèle ne garantit pas le succès. Dans la production, le plus cher, ce sont les compétences. » Si l'équipe ne les a pas, elle doit aller les chercher à l'extérieur et cela accroît fatalement les coûts. D'ailleurs, nous dit Politica, aujourd'hui, plus que le financement, c'est le manque vraiment de main-d'œuvre qui entrave la création. Sur les portails spécialisés, on trouve de nombreuses offres d'emploi pour des programmeurs, animateurs 3D, testeurs, ingénieurs du son, spécialistes de la VR, etc. etc. La fièvre des jeux alimentée par le rêve d'un nouveau The Witcher et par le succès des grands studios polonais comme CD Projekt, 11 Bit Studios, CE Games, Playway, Ten Square Games ou Techland fait que l'on parle de ce secteur comme d'une nouvelle spécialité polonaise. L'an dernier, son chiffre d'affaires s'est monté à 500 millions d'euros à peu près. On nous dit que, longtemps méfiant, les investisseurs ouvrent désormais leur portefeuille dans une atmosphère qui rappelle un peu la bulle internet des années 90. Mais cette dernière avait fini, bien évidemment, vous le savez, par éclater. Et certains craignent donc que la hausse rapide du cours de l'action de CD Projekt ne donne lieu à un scénario finalement similaire. 5 grands producteurs, nous expliquons, et éditeurs, plus une dizaine d'autres sociétés plus petites, sont déjà cotées à la bourse de Varsovie. D'autres attendent leur tour. Même celles qui n'affichent pas encore de grands succès n'ont pas de problème à lever des fonds car les investisseurs délaissent des secteurs plus anciens au profit des jeux vidéo. L'État aussi est tombé amoureux de cette industrie, nous dit-on. Le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, j'espère que je ne prononce pas trop mal depuis le début, je marche sur des œufs avec la prononciation, j'espère que je n'écorche pas trop tous les noms cités depuis tout à l'heure. Bref, le Premier ministre assiste au salon spécialisé et promet tout son soutien. En pratique, les aides publiques ne sont pas très nombreuses, nous dit Politica, mais les responsables politiques ont beaucoup d'idées pour exploiter le filon, par exemple la création de jeux patriotiques. Cependant, rares sont ceux qui ont convaincu le public. Malgré l'appui du ministère de la Culture, ni les jeux sur la Seconde Guerre mondiale, ni Music Master Chopin, un jeu sur le célèbre compositeur, ces jeux-là n'ont pas marché, voilà. Dernièrement, le gouvernement avait même lancé un projet de loi de soutien aux créateurs de jeux qui promeuvent la culture et l'histoire polonaise. Mais il a vite été rangé dans un tiroir. Pour le moment, c'est donc au célèbre Geralt de Rive, donc le héros de la saga The Witcher, qu'il revient de se battre pour faire connaître la Pologne dans le monde. C'est ainsi que se conclut ce papier de Politica, donc traduit et rapporté par le toujours excellentissime Courrier International. J'avais envie de vous en parler, puisqu'il est toujours intéressant de voir le point de vue vraiment du pays d'où naît un studio à succès, d'où naît une licence à succès. Et The Witcher, son aura absolument internationale qui a explosé avec le troisième épisode, et à juste titre, hein, moi j'ai jamais eu le temps de le finir malheureusement, mais c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, peut-être un jour si j'ai le temps, je m'y replongerai vraiment avec grand plaisir. C'est intéressant de voir le point de vue polonais, surtout d'un hebdo là-bas qui a pignon sur rue, qui est respecté, énormément même apprécié, nous dit-on, par l'intelligentsia polonaise. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue-là. Allier science aux jeux vidéo. C'est un dossier passionnant que j'ai trouvé sur le journal du CNRS, un papier qui nous parle de Raphaël Granier de Cassagnac, qui est un physicien des particules, auteur à succès, mais aussi, nous dit-on, un joueur invétéré. Le papier nous dit qu'il vient de créer au sein de Polytechnique la chaire Sciences et Jeux vidéo en partenariat avec Ubisoft afin de diffuser la science à travers ce média ultra populaire. Petit rappel, et là je vous le dis tout de go, je m'aide de Wikipédia. Qu'est-ce qu'une chaire universitaire, hein, ou qu'on peut appeler aussi chaire professorale ? C'est un poste permanent d'enseignement et de recherche universitaire attribué à un enseignant qui obtient alors le titre de professeur. Important de rappeler cela pour la suite de ce sujet. Raphaël Granier nous dit, je cite, « J'avais 10 ans quand mes parents m'ont offert mon premier ZX81, un ordinateur avec 1 kilo-octet de mémoire vive. J'y recopiais religieusement des codes de jeux vidéo que je trouvais dans des magazines spécialisés. J'étais déjà accro. » Alors on nous rappelle aussi que Raphaël Granier de Cassagnac est directeur de recherche CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école Polytechnique. Et donc c'est surtout pour ses romans, nous dit-on, et ses nouvelles de science-fiction, plusieurs fois primées, que le grand public le connaît. Mais en plus d'être un auteur à succès et un physicien des particules reconnu, il est donc un gamer invétéré. Alors on nous dit qu'il a des allures d'étudiant avec sa chemise à carreaux, ses nombreuses bagues aux doigts, il déambule dans le centre de recherche abritant les laboratoires de l'école polytechnique, passant sa tête dans les bureaux, distribuant de chaleureux saluts à ceux qu'il croise, il est ici, chez lui. Derrière l'une des portes qu'il ouvre, ses quatre collègues sont agglutinés devant un écran. Ils testent un nouveau jeu de leur confection. Le jeu vidéo, nous dit Raphaël Granier, représente l'industrie du divertissement la plus importante devant celle du cinéma et de la musique. C'est donc un formidable média pour diffuser de la science. Cette chaire de mécénat, signée avec Ubisoft, a justement pour ambition d'incorporer davantage de science dans les jeux. Et donc pour ce faire, nous dit le journal du CNRS, 4 professionnels du jeu vidéo, un développeur, un game designer, un graphiste et une chef de projet ont été embauchés. Et leur programme est chargé. Nous commençons par organiser une conférence sur la science dans le jeu vidéo avec Ubisoft au sein de Polytechnique le 26 novembre, avec l'objectif de rendre cet événement pérenne et international. Côté enseignement, nous dispenserons des cours à des étudiants de deuxième année qui auront pour mission de créer un jeu scientifique. Nous détaille donc le chercheur. Par la suite, dit-il, les étudiants de 3e et 4e année en profiteront et nous avons même le souhait de créer un master spécialisé. Via ces cours, donc, nous dit l'article, l'idée est de mener des projets collaboratifs innovants et transdisciplinaires. Raphaël Granier ajoute, nous avons par exemple commencé à travailler avec le département de linguistique pour générer, au sein d'un jeu, des dialogues qui s'adaptent à un environnement changeant comme la météo. Pour tous ces projets, nous tenons absolument à ce que la science soit très présente. Alors s'ensuit dans le papier, je vous mettrai comme d'habitude le lien de l'article dans la description de l'émission, mais on revient donc sur la carrière de Raphaël Granier de Cassagnac, et donc un peu plus loin dans l'article, on apprend qu'avec toutes ses casquettes, avec son emploi du temps fort bien rempli, il continue évidemment de jouer aussi bien à des jeux vidéo qu'à des jeux de société ou des jeux de rôle hein, même, et crée aussi ses propres mondes imaginaires, hein, nous dit l'article. Ceux-là sont très fortement inspirés de la science qu'il connaît donc si bien. Il développe en effet un jeu dont le nom de travail est Reveal, qui raconte la physique des particules via des paysages fantasmagoriques dans lesquels le joueur peut voir tous nos objets de science invisibles mais tellement fascinants, rayons cosmiques et autres particules élémentaires. Hein. Le chercheur nous dit « J'ai commencé à travailler sur ce concept en répondant à un appel à projet ». Le Proof of Concept, hein, lancé lui aussi par le Conseil européen de la recherche et qui valorise notamment les initiatives de vulgarisation et de valorisation des résultats scientifiques. Il se trouve que je n'ai pas obtenu le financement, mais l'idée était lancée et je n'ai plus jamais lâché. Alors pour financer le projet, nous dit-on, il prend son bâton de pèlerin et frappe à plusieurs portes. À ce moment-là, on est encore en 2017. Hein. Les premiers soutiens obtenus sont ceux du LabEx P2IO, hein, le laboratoire d'excellence pour la physique des deux infinis et des origines, puis de l'université Paris-Saclay et du LLR de Polytechnique. Donc tous répondent hein, à son appel. Ainsi sponsorisé, il avance dans le développement de son jeu, mais n'a pas oublié d'écrire. En 2014, il sort son deuxième roman, Thinking Eternity, qui a reçu d'ailleurs le prix du lundi, un des grands prix pour la science-fiction française. Il n'est toujours pas question de physique ni de cosmologie, mais de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Entre 2014 et 2017, il a écrit 5 autres nouvelles. Alors il nous dit « Quand je suis arrivé au bout de ces premiers euros, bienvenue mais limité, il me fallait trouver d'autres sources de financement pour mon jeu. » Alors le physicien nous dit, je cite à nouveau, « J'ai alors eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, des gens comme Olivier Doba d'Ubisoft et David Louapre, fondateur de la chaîne YouTube Science Étonnante, qui venait d'être embauché en 2018 comme directeur scientifique d'Ubisoft. Ils ont tout de suite accroché à mon idée, j'ai senti un appétit très fort pour la science. » Donc tout ceci a encouragé le chercheur à soumettre le projet le plus ambitieux qui lui trottait alors dans la tête, créer une chaîne de jeux vidéo au laboratoire Le Prince Ringuet au sein de Polytechnique. Alors la nouvelle a été accueillie très chaleureusement, nous dit-on, et tout s'est fait très vite. Il a donc signé officiellement les accords pour la création de la chaire début 2019. Il s'agit d'une chaire de mécénat, ce qui signifie qu'Ubisoft donne pour la cause académique, mêlant la science aux jeux vidéo. « Nous sommes très libres, nous dit-il, notamment de travailler sur toutes les sciences avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du jeu. » Avant de signer la chaire, Raphaël Granier de Cassagnac s'était d'ailleurs déjà tourné vers Manzalab, une entreprise experte en réalité virtuelle pour développer une expérience immersive dédiée aux lycéens, leur faire visiter en réalité virtuelle des instruments de pointe. Raphaël Granier de Cassagnac parachève ce papier avec ces mots, je cite « Avec cette chaire, j'ai réuni toutes mes passions. Faire de la science, jouer, raconter des histoires. C'est vrai qu'on me connaît surtout pour la recherche et mes romans de SF, mais cette année, aux Utopiales, je vais faire mon coming out vidéo. Et quelle que soit la nature de mes activités, je reste fidèle à ma cause. Science for all, fun above all. » Ce qui veut dire la science pour tous, le plaisir avant tout. Voilà une belle initiative. L'idée, la philosophie de ce projet m'a tapé dans l'œil et voilà pourquoi, comme d'habitude, je voulais vous en parler ce matin. De la grogne réelle à la grogne virtuelle quand les manifestations s'invitent sur les serveurs. C'est un excellent papier, un dossier, de Nodus sur GameCult qui nous explique qu'il n'aura sans doute échappé à personne que ces dernières semaines ont été particulièrement agitées, euphémisme quand tu nous tiens, du côté de chez Blizzard après la qualification et le bannissement de Blitzchung, un joueur professionnel de Hearthstone. Donc ça, on en a parlé, vous le savez, et on en a reparlé même, on a fait une petite mise à jour durant la brochette de news. Nodus nous dit que si pour certains la frontière entre politique et jeux vidéo est un mur qui doit à tout prix rester inébranlable, tous ne sont évidemment pas de cet avis. À mesure que les voix s'élevaient dans la rue, beaucoup se sont également élevés in-game, à l'image des joueurs d'Overwatch par exemple, qui ont utilisé le personnage de Mei, de nationalité chinoise dans le lore du jeu, comme un symbole de protestation. Ça, on en avait parlé aussi la semaine dernière. Quoi qu'on en pense, nous dit Nodus, difficile de nier une certaine porosité entre la frontière qui sépare les mouvements sociaux des jeux en ligne, et nous avons décidé, nous dit-il, de nous intéresser d'un peu plus près à ces moments où les manifestations se sont invitées sur les serveurs de jeu. Donc Nodus nous rappelle que dans les jours qui ont suivi le bannissement de Blitzchung, les joueurs d'Overwatch ont profité de la présence d'un personnage de nationalité chinoise dans le roster pour faire donc entendre leur soutien aux manifestants hongkongais, en incarnant ce personnage bien plus que d'habitude déjà, mais en transformant son image habituelle de climatologue sympathique en un symbole contestataire universel. May s'est ainsi retrouvé à de nombreuses reprises en première page de Reddit, hein, forum assez actif hein, qu'on ne présente plus, pendant plusieurs jours d'affilée, hein, avant de s'inviter jusque dans les rues de Hong Kong, où certains n'ont pas hésité à la représenter sur des affiches ou des pancartes qu'ils brandirent durant les manifestations. La très mauvaise gestion de crise chez Blizzard a amené d'autres bannissements, tout en donnant naissance à de la censure sur les serveurs du jeu. Par exemple, utiliser le hashtag Free Hong Kong hein, équivaut aujourd'hui à prononcer 6 fois le nom de Voldemort, nous dit Nodius. Et donc ça a même provoqué le retrait de figurines May dans certaines boutiques de produits dérivés. Donc, vraiment là, on marche sur la tête. Bref, quoi qu'il en soit, la frontière s'est effacée, nous dit le journaliste. La manifestation s'est invitée dans le jeu vidéo, et le jeu vidéo s'est invité dans la manifestation. Des situations comme celle-là sont un peu moins fréquentes. Les manifestations ne sont pas si rares que ça dans les jeux vidéo. Évidemment, croiser des joueurs grognons sur les forums de discussion n'a rien de nouveau, mais ces dernières années ont été marquées par tout un tas de mouvements sociaux et juridiques dans la vraie vie, en réponse aux conditions de travail dans certains studios. Même au sein des jeux vidéo, les joueurs ont pris pour habitude d'afficher leur colère en protestant directement sur les serveurs, comme c'est parfois le cas dans les MMORPG. Tout récemment, par exemple, au Ninodus, on se souvient du mouvement des Gilets jaunes qui avait déteint sur des jeux comme GTA Online ou The Crew, quand des petits rigolos organisaient des opérations escargots et des blocus pour embêter leurs partenaires de jeu. Des camions en travers de la route, des fumigènes et quelques gueulantes dans le micro, certaines images insolites avaient même été relayées par des médias généralistes. BFM TV, priorité au direct, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous rappelle Nodus, lorsque la personnalisation le permettait, ces mêmes joueurs ne rataient généralement pas l'occasion d'habiller leur personnage ou de peindre leur véhicule aux couleurs du mouvement, et ce pour allier d'éventuels volontaires à leur cause. Les serveurs roleplay hein, de GTA V ou Arma 3, hautement personnalisables, permirent même aux plus créatifs d'importer directement des modèles 3D de gendarmes, de tenues de manifestants ou de lance-grenades pour reproduire avec davantage de fidélité ce qu'ils voyaient à la télé. Oui, vous avez très certainement vu tourner ces images. Effectivement, on s'y croyait presque. Hein. Un petit peu dézoomé, un petit peu flouté, on aurait pu croire une image effectivement BFM TV ou de CNews. Si l'on commence à discuter manifestations et problématiques sociétales dans le jeu vidéo, il est un exemple, nous dit Nodus, qui revient de manière assez récurrente. Il s'agit bien évidemment de World of Warcraft. En tant que MMORPG, le plus répandu de l'histoire, hein, et ça c'est un fait, il arrive souvent d'y voir naître des mouvements de foule et des opérations de groupe. Bien souvent à l'encontre des développeurs, mais parfois en simple miroir de notre société, quand les communautés virtuelles défendent les valeurs qu'elles prônent dans le monde réel. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment l'organisation fréquente de parades et d'événements par la communauté LGBT de World of Warcraft. Représentation plus que concrète hein, de ce que nos cousins outre-Atlantique appellent le New Social Movement, la Pride Parade de WoW a souvent eu lieu sur les terres d'Azeroth pour permettre aux joueurs qui le souhaitaient de revendiquer, en même temps que les parades à travers le globe, la liberté d'orientation sexuelle et l'égalité. La guilde du serveur Proudmoore était bien souvent citée comme l'un des lieux de rendez-vous incontournables. Trolls, orques, tauren et autres elfes de la nuit manifestaient ainsi pacifiquement dans les rues d'Hurlevent et à travers la forêt d'Elwynn en spammant le chat, hein, exactement comme s'ils conversaient dans la vraie vie. Le mouvement LGBT de WoW, nous dit-on, n'est aujourd'hui plus aussi actif qu'il y a quelques années. Il l'était beaucoup plus entre 2010 et 2016. Au mois de juin de chaque année, on pouvait voir défiler des milliers de personnes sur les serveurs. Certains joueurs changeaient volontairement le genre de leur personnage, beaucoup utilisaient des sorts faisant appel à des étincelles ou à des éclairs pour ambiancer la foule, et des soirées étaient même organisées pour danser un peu. Quelques éditions de ces parades ont même sollicité la présence d'un photographe de guilde qui devait immortaliser l'instant et prendre quelques clichés de joueurs dans le cadre du concours Azeroth Next Top Model où les joueurs défilaient sur une scène improvisée. Plus tard, ces événements virtuels permirent à quelques joueurs de se rencontrer dans la vraie vie lorsque des meet-ups prirent place en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Aujourd'hui, nous explique Nodius, les choses ont pris un tournant quelque peu différent sur les serveurs de WoW. Oui, la guilde des Gay Boys de World of Warcraft classique a récemment été contrainte de changer son nom pour guilde ZFKPK, un nom vide de sens généré par un algorithme informatique. Blizzard a été informé de nombreuses plaintes émises par les joueurs et a temporairement suspendu le compte du créateur de la guilde avant de lui redonner accès au serveur quelques jours plus tard, plaidant la cause du bannissement automatique après de multiples reports. De son côté, l'un des membres de la guilde expliquait recevoir très fréquemment des messages d'insultes et des menaces d'autres joueurs parce que la discrimination est elle aussi coupable de s'inviter sur les serveurs de MMORPG. Alors il y a beaucoup d'exemples que nous donne Nodus. On parle d'Eve Online, où les joueurs s'étaient organisés pour grogner contre l'éditeur ou le développeur. Elite Dangerous, Black Desert Online, qui a hébergé lors d'une manifestation l'un des plus gros raids jamais enregistrés, 300 à 1400 personnes se sont ruées dans la région de Valencia et ont réussi à déconnecter les serveurs européens du jeu. Donc Nodus nous parle de beaucoup d'actions comme ça qui ont été menées, pour diverses raisons. Là je vous lis pas tout le dossier parce qu'il est extrêmement long et je vous invite vraiment à aller le lire, le lien est bien sûr dans la description de l'émission comme d'habitude. Un peu plus loin dans le dossier, Nodus nous parle d'EverQuest, qui avait subi une vague de manifestations et qui provoquait une refonte complète des mécaniques de combat, où les mouvements organisés dans Second Life, souvenez-vous Second Life, donc en juillet 2003 plus particulièrement, quand les citoyens virtuels décidèrent de faire brûler des choses, toujours virtuelles, dans les rues, là encore virtuelles nous précisons, avant d'obtenir une réponse, elle bien réelle, des développeurs bien plus positives. Guild Wars 2 n'y a pas échappé non plus. Après moult exemples dans ce dossier, la conclusion de Nodus est la suivante. Il nous dit qu'il est bon de rappeler que les rassemblements de joueurs ne sont pas nécessairement des mouvements protestataires ou dégueulantes à l'encontre des éditeurs, mais parfois des manifestations de joie, de nostalgie ou de soutien. Effectivement, il a raison de préciser qu'il faut éviter toute caricature. Un bon moyen, nous dit-il, d'enterrer l'âge de guerre est de se réunir pour se remémorer des bons moments, se respecter et montrer qu'on est là, qu'on existe. Ne pas oublier que derrière ces centaines d'avatars virtuels, on trouve des humains bien réels. Donc je vous invite à aller lire ce dossier, qui peut intéresser même au-delà des adeptes du jeu en ligne, puisque moi je ne suis pas adepte du tout de ce type de jeu-là, mais ce qui s'y passe, c'est profondément passionnant. Et il y a certains mouvements qui n'étaient pas arrivés jusqu'à mes yeux, jusqu'à mes oreilles, qui s'étaient vraiment passés sous le radar. J'ai découvert aussi pas mal de choses, au-delà des actions un peu plus médiatisées qui avaient été menées. Donc je vous invite à aller lire tout ça. Lutte contre l'homophobie, les créateurs de jeux vidéo s'engagent. C'est un papier que j'ai lu sur Esbeck Erika, signé Roman Munier. Et avant de vous parler de ce papier, sur un sujet que j'avais déjà abordé lors des saisons précédentes, je vous préviens par avance, il y aura quelques insultes, donc homophobes, que je vais citer. D'habitude, j'aime bien avoir un langage quand même qui est pas trop ordurier dans cette émission. Mais là, il faut citer les choses. Il faut vraiment, pour aborder ce sujet sérieusement, et Dieu sait que c'est un sujet très sérieux, on ne peut pas le faire sans dire les mots. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous prévenir qu'il y aura des insultes qui seront citées, des insultes qui pourrissent la vie de tant et tant de personnes. Et voilà, pour aborder le sujet, il ne faut pas mettre sous le tapis ces termes-là. Voilà, si on veut dénoncer ce fléau de l'homophobie, et là, plus particulièrement donc dans le milieu du jeu vidéo. Et donc, le papier nous dit que les propos homophobes sont monnaie courante dans les parties de jeux en ligne, comme un League of Legends par exemple, ou un World of Warcraft. Et donc l'auteur du papier de se demander et si la lutte contre l'homophobie passait par le jeu vidéo lui-même. Et donc cette journaliste, Roman Munier, a rencontré des gens lors de la Paris Games Week, vous savez, qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, sont rapportés des propos d'Alex Dubrow, cofondateur de l'association Next Gamer, G-A-Y, Gamer, qui nous dit « Trouvez-moi un seul joueur qui n'ait pas fait face à des propos homophobes lors d'une partie en ligne. Quelqu'un qui n'a pas été une seule fois baigné d'insultes de type fag ou PD. Je ne dis pas qu'un seul sale PD va être impactant, je vous dis simplement que ce genre de propos, on peut le lire et l'entendre jusqu'à 150 fois par heure, ce qui crée un sentiment d'exclusion et conduit parfois de jeunes joueurs au suicide. » Alex Dubrow, donc, qui anime, nous dit-on avec bienveillance, et depuis 2008, une communauté donc de gamers, G-A-Y, et on en avait déjà parlé dans l'émission. Donc le papier poursuit en nous disant que les communautés LGBT en ligne ou hors ligne, très nombreuses, sont décrites donc par Alex Dubrow comme une solution temporaire, voire d'urgence, en attendant que la situation s'améliore pour ces joueurs. Malika VR, une joueuse qui a intégré l'association Next Gamer, nous dit, je cite, « Les gens pensent qu'on s'identifie par notre sexualité, mais on n'a pas envie de se regrouper entre nous pour cela. On le fait parce qu'on nous réduit à notre sexualité, consciemment ou inconsciemment. » Plus loin, l'article nous parle de Dotnode, vous savez, le studio français basé à Paris. Life is Strange, est-il besoin de vous le représenter ? Donc Dotnode est pris en exemple dans ce papier comme un studio de jeux vidéo qui mise sur des narrations plus modernes. Est interrogé Masha Lopez, un narrative designer chez Dotnode, qui nous dit, je cite, « On parle de liens familiaux, du racisme, de l'homosexualité, de la bisexualité. On cherche à proposer à nos joueurs des gameplays qui ne reposent pas uniquement sur des personnages virils à l'extrême ou sur de la compétitivité. Je refais une petite parenthèse, excusez-moi, c'est ma spécialité, mais je trouve que le traitement de l'homosexualité tel qu'il a été fait dans The Last of Us, dans le scénario additionnel Left Behind, et tel qu'on l'a vu dans les trailers annonçant The Last of Us Part 2, en tout cas si vous avez fait Left Behind, je trouve que c'est amené vraiment avec beaucoup de sérieux, loin vraiment de tous ces clichetons qu'on a pu voir dans d'autres jeux ou dans d'autres œuvres. Et je trouve que Naughty Dog a une approche aussi là-dessus qui est vraiment très intéressante. Bref, revenons avec Masha Lopez, donc qui a travaillé sur Life is Strange 2 et qui nous parle donc du jeune héros de Life is Strange 2. Elle nous dit: il est américain, hein, d'origine mexicaine, il a 16 ans, l'âge auquel il s'interroge sur son identité, sa sexualité. On inclut ses questionnements de manière organique. Dans un épisode, le joueur pourra choisir d'avoir une romance avec une femme ou un homme. Et parfois, le garçon pleure. Et oui, ça arrive, je confirme, même si on n'a pas l'habitude de le voir dans les jeux vidéo, précise-t-elle avec humour. Dans le jeu vidéo, j'ai la sensation, nous dit-elle, qu'on a une responsabilité plus lourde que dans les autres médias, car on parle à un public très jeune. Alors, pas seulement, bien sûr, pas toujours très jeune, mais c'est important, effectivement, de sensibiliser et d'amener un discours d'ouverture loin des clichés à un public jeune, et parfois même moins jeune, parce que certains clichés ont la vie dure, pas que les jeunes parfois qu'il faudrait rééduquer, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce jeune public, nous dit l'article, Nora Meran, alors j'espère que je prononce bien, administratrice du refuge, le connaît bien. Depuis qu'elle travaille dans cette association, vous connaissez sûrement le refuge, mais le papier nous le rappelle, hein, c'est une association qui accompagne les 18-25 ans victimes d'homophobie et de transphobie en rupture avec leur famille, et à l'occasion, donc ils font de l'accueil, mais ils font aussi de la pédagogie dans les collèges et lycées. Et d'après Nora Memram, le constat est vraiment alarmant. Je cite, « Ils se traitent de PD dans la cour de récré sans même savoir ce que ça veut dire. Ils pensent à pédophiles, même. Ils ne sont pas du tout éduqués à ces questions-là. Parfois, on me demande même si deux garçons peuvent avoir des bébés. Les jeux vidéo et les séries peuvent permettre de se poser des questions comme « Comment ce personnage très viril, très masculin, peut-il être gay ?» Présenter à ses enfants des personnages différents, intégrés à un cadre qu'ils considèrent être la normalité, leur permet de concevoir une nouvelle normalité. Et je refais une parenthèse, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font du côté des cartoons. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo sur Bienvenue chez les Loud avant que ça cartonne, mais maintenant, je sais que ça ne passe plus que sur Cartoon Network, ça passe sur une des grandes chaînes nationales, je ne sais plus laquelle. Bref, Bienvenue chez les Loud, vous avez donc le héros qui s'appelle Lincoln, qui est un jeune garçon, son meilleur ami est un enfant adopté par deux papas. Voilà, son deux papas, c'est un couple gay. Et amené sans cliché, etc., comme manière tout à fait naturelle, et je trouve ça formidable que même dans les cartoons, on voit de plus en plus ces sujets de société très importants être développés. Voilà, je referme encore la parenthèse. Je vous mettrai le lien de ce papier qui est extrêmement long et vraiment très intéressant. J'aimerais quand même parler, donc c'est un peu plus loin dans le papier, de ce passage sur Microsoft, puisque Roman Meunier, donc l'auteur du papier, nous dit que l'inclusion dans le jeu vidéo passe aussi et presque avant tout par le recrutement de profils divers et variés dans le domaine du développement et de la conception, ainsi que dans l'e-sport. Elle s'est entretenue avec Laurence Lafont, Chief Operating Officer de Microsoft France, et qui est en charge de la diversité. Madame Lafont nous dit « Les sociétés doivent concevoir des cadres pour permettre à chacun de s'exprimer, quel que soit son genre, son âge ou ses origines. » Et donc à la question de diversification des équipes, elle nous dit « Pour cela, on a besoin de rôles modèles, pour donner envie et montrer que c'est possible. Il faut aussi former les managers à questionner leur méthode de recrutement, à remettre en question leur comportement. » Et oui, puisque le papier nous rappelle que cet enjeu, à la fois économique, parce que ça élargit la cible bien sûr, et sociétal, s'accompagne d'une véritable transformation de l'entreprise. Laurence Lafont nous dit « On est à un moment clé. » Il faut s'assurer que nos algorithmes ne sont pas conçus que par des hommes, que nos données soient plus ouvertes et que nos produits soient conçus par des personnes plus représentatives de notre société dans son ensemble. Bref, je vous le disais, c'est un très bon papier à aller lire d'urgence sur Uzbek Erika. C'est un site que je ne connaissais pas, pour tout vous dire, en faisant mes recherches pour l'émission comme chaque semaine, que je suis tombé dessus. Un très bon papier signé Roman Meunier, j'espère que je n'écorche pas son nom. Pour lire l'intégralité, je vous mets le lien, bien sûr, dans la description de l'émission. Et je pense qu'il est l'heure, hélas, de nous quitter.